d'Exenton, que vous avez ici en présentation. Parce que l'histoire des Linots est tout à fait surprenante. Elle est à la fois très banale, hein, dans l'histoire du protestantisme de l'époque moderne, en quelque sorte, Didier Poton va nous en parler, mais le parcours de cet homme, son parcours personnel, est tout à fait fascinant, tout à fait extraordinaire, et je le compare souvent, lorsque j'en parle, à une épopée, car je crois qu'à son sujet, on pourrait facilement parler d'épopée. Alors je remercie en tout cas le professeur Didier Poton d'avoir accepté notre invitation ce soir. Didier Poton est professeur des universités à La Rochelle, il a été doyen de cette même faculté. Il a commencé son travail de chercheur ici, donc il n'est pas dépaysé, hein, puisqu'il a travaillé, il a fait un travail remarquable sur la communauté protestante de Saint-Jean-du-Gard, à l'époque moderne, et au XVIe siècle, en particulier, XVIIe siècle, pardon. Ensuite, hein, donc il a continué ses travaux, et puis il a intégré l'université de La Rochelle, et depuis, il est l'auteur de nombreuses publications, que ce soit des publications techniques ou des ouvrages d'histoire générale, notamment, il est l'auteur d'un manuel avec Patrick Cabanel, aux éditions Hachette, chez Nathan, l'histoire des protestants dans la France moderne. Voilà, donc ici, nous abordons un voyage particulier. Nous avons tenté de présenter cette thématique, les protestants en voyage sous divers aspects. Les voyages commerciaux, les voyages contraints, nous allons l'aborder ce soir avec le cas des Linots. Et nous aborderons aussi le voyage des idées avec Patrick Cabanel lors de la prochaine conférence. Et puis nous terminerons avec une conférence de sociologie dont je vous parlerai à la fin. Voilà, donc je propose de commencer tout de suite cette conférence pour à peu près 50 minutes. Et puis après quoi, on aura une discussion pendant 15 à 20 minutes où vous pourrez intervenir, faire vos remarques et évidemment aussi poser vos questions et approfondir certains sujets peut-être qui auront été simplement survolés par notre conférencier. En tout cas, n'hésitez pas.
C'est bon. C'est bon. Et là, ça marche. Oui.
L'amplification est là. Là, c'est l'enregistrement.
Donc, faut parler là.
Voilà. Voilà.
Bien, merci de cette invitation.
Parce que cela me fait retrouver les Cévennes, thèse à Montpellier dans les années 80. Je reviens de temps en temps, mais comme je dis toujours, pour le petit Parisien d'une famille catholique d'origine nantaise ayant été formé chez les oratoriens de Massillon à Paris, quand je suis arrivé dans les années 82-83 en Cévennes, je disais tout à l'heure, pour moi c'était d'un exotisme total. Pour l'homme de, je dirais, une famille de l'Atlantique. Mais c'est, pour moi, ça, c'est un souvenir important, et notamment, c'est là que j'ai fait des liens professionnels et en même temps des amitiés. Et je pense que, notamment avec Patrick Cabanel, j'ai toujours gardé ce lien avec les Cévennes. Alors, Élie de prénom, nom de nom. Il est né à Moez, au sud de La Rochelle, en 1662. Il est mort en 1722 à New York, à l'âge de 60 ans. Si on déroule sa vie, on s'aperçoit que 1679, embarquement de La Rochelle pour les Antilles, un mariage à Boston en 1685, une vie de capitaine de navire en 1691 à partir de New York. En 92, pris par un corsaire français de Saint-Malo, au large de la Jamaïque. Il se retrouve à Saint-Malo. 1693, condamnation en galère. Et comme ça ne suffit pas, compte tenu de son opiniâtreté, il se retrouve au château d'If, d'où le titre de l'ouvrage. 4 ans d'incarcération, une libération. Libération exceptionnelle, très peu de galériens ont été libérés sur demande soit de l'Angleterre, soit des Pays-Bas. Un retour à New York dès 1698 où il retrouve sa famille. Et en 1704, il quitte l'église huguenote pour l'anglicanisme. Il fonde à New York une école, ce qu'il appelle son école africaine, c'est-à-dire qu'Elino a fondé l'école qui était à destination des enfants, des esclaves. Il y a eu dans son école essentiellement des esclaves d'origine africaine, mais il y a aussi des jeunes amérindiens. Donc quelque chose d'un un parcours un peu exceptionnel. Et son école a duré près d'une vingtaine d'années, cessera en 1722 avec sa mort, mais faut imaginer ce parcours. Et c'est pour ça que, en passant comme ça la série date, l'épopée, déjà, on l'aperçoit très très bien. Alors, Elino, qui est-ce? Elino, c'est d'abord un marin charentais. C'est d'abord un marin de Saint-Onge, c'est-à-dire ce pays au sud de La Rochelle. Un Saint-Onge qui a la particularité d'être un pays protestant, qui est un pays protestant, qui est un pays où le protestantisme s'est implanté très tôt, dès les années 1540-1550. Et Moèze, c'est le village de la paroisse de Soubise. Soubise, c'est une ville, petite ville, puisqu'elle est clos de murs, et elle contrôle l'estuaire de la Charente. Et à l'époque, Soubise, c'est important parce que Rochefort n'existe pas, l'arsenal de Rochefort, quelques années plus tard. Mais Soubise tient, verrouille l'estuaire. C'est un pays protestant aussi dans tout le sud. Ce sont les marais salants de Brouage. Il y a toutes les communautés de la Seudre à la sortie de l'estuaire de la Gironde. On est dans ce qu'on appelle le pays des îles, la Saint-Onge maritime, avec des paroisses et des communes après la Révolution française et où dans le milieu du XXe siècle, on a quasiment une majorité de protestants. Donc on est vraiment dans un pays d'histoire, de mémoire protestante. C'est important à savoir. Ça veut dire tout simplement que le petit Elino, je l'aborderai après, rapidement, il a eu une éducation protestante. Dans une famille, l'Eno, qui est une famille importante, on retrouve l'Eno à La Tremblade, à Marennes, dans toute la Saint-Onge maritime. Et ce pays protestant, c'est un pays aussi qui a une autre dimension. C'est celui qui va donner beaucoup de fugitifs, beaucoup de réfugiés au XVIIe siècle. Vraisemblablement, dans les années 1670-1690, c'est... Un protestant sur trois est parti. Un protestant sur trois est parti, alors que globalement, on est au niveau de la France à 1 sur 5, et en Saint-Onge et en Poitou à 25%. Là, on est entre 25 et vraisemblablement 33%. Donc, on est parti au moment de la révocation. Et cette terre de fugitifs, elle a alimenté un courant de départ. Le dernier départ, c'est le pasteur Gibert, en 1762, à la fin de la guerre de 7 ans, qui part de Bordeaux avec une centaine de protestants, à une époque où il y a une tolérance de fait, mais on s'attend à ce qu'après la guerre de 7 ans, le roi de France avait besoin des navires, des négociants Rochelais pour protéger le Canada et les Antilles. Donc on tolère que les négociants protestants et les protestants aient un culte privé, mais on se dit qu'en 1762, quand il y aura la paix, cela changera comme la dernière fois, c'est-à-dire que la répression reprendra. Et le pasteur Gibert part sur Charleston, et Charleston qui est le deuxième lieu important où les protestants se réfugient dans les colonies anglaises. Donc une terre de fugitifs. Et si c'était une terre de fugitifs, c'est tout simplement parce que c'est un pays qui est ouvert sur la mer, on part facilement. Alors quand, sur le plan économique, ce marin Saint-Ongeais, il participe d'une économie maritime qui est contrôlée effectivement par une bonne partie des protestants. Et cette économie maritime, elle a en fait trois sites bien particuliers où se répartit le travail. La Rochelle, la cité huguenote, là où les négociants sont importants, là où on a le capital pour toutes les opérations maritimes au XVIe siècle. On trouve des navires rochelais au Brésil quasiment en même temps que Cabral découvre le Brésil. Donc des navires qui vont à Terre-Neuve dès le début du XVIe siècle. Donc à La Rochelle, on a le négoce et on a le capital permettant d'investir. Mais comme j'explique souvent à mes amis rochelais, La Rochelle a une caractéristique, s'imagine un port, mais elle n'a pas de marin. Donc les marins, où sont-ils? Eh bien, ils sont à Moèze et à Soubise. C'est le vivier de marins, de même la Marraine et la Tremblade, c'est un vivier de marins. Autrement dit, pour leurs entreprises maritimes, le capitalisme maritime rochelais a besoin des marins de la Tremblade, des capitaines de Moëse, etc. Donc, le jeune Elino, il naît dans ce milieu-là. Et quand on n'est pas marin dans ces familles protestantes, eh bien, on travaille le marais salant, on travaille le sel de brouage. Et les bateaux qui permettent d'exporter le sel ne sont pas tous protestants, mais ils sont en partie protestants. Mais ils sont en partie protestants seulement parce que s'il y a des navires qui jouent un rôle important dans l'exportation du sel, c'est essentiellement les bateaux portugais, les bateaux espagnols. Mais aussi, il faut savoir que tout le littoral atlantique à la fin du XVIe et XVIIe est contrôlé par une flotte extrêmement importante. C'est la flotte bretonne, le cabotage breton. Les Bretons tiennent tout le cabotage sur le littoral atlantique. Il y a à Bordeaux, un collègue a calculé que les trois quarts des navires qui emportaient le vin de Bordeaux étaient des navires bretons, n'étaient pas des navires bordelais. Et ces navires bretons vont vendre le vin en Angleterre, aux Pays-Bas, et là, sont relayés par des marchands anglais, des marchands néerlandais, etc. Donc, dans les années, en 1662... Quand Elino naît, quelle est la situation? La situation est difficile. Et ça, c'est pour comprendre la deuxième date, 1679, l'embarquement. Cette économie maritime extrêmement dynamique a été très prospère jusqu'à l'édit de Nantes. Même les dernières années des guerres de religion ont été très rentables pour les Rochelais. Il y a un pasteur de La Rochelle qui, dans son journal en 1595, donc on est trois ans avant l'édit de Nantes, dit très clairement « Nous n'avons jamais eu autant d'argent dans cette ville ». Donc c'est une ville extrêmement riche. Et elle a tiré sa richesse de quoi? De toutes ses entreprises maritimes, mais aussi et surtout d'une entreprise maritime très particulière qui s'appelle la course, c'est-à-dire la piraterie, la chasse aux galions espagnols, etc., et notamment, les tours de La Rochelle sont célèbres, mais la tour de la Chaîne à La Rochelle était là où on entassait ce qu'apportaient les corsaires protestants, et notamment Henri de Navarre, Jeanne d'Albret, qui donnait ses lettres de course, exigeait 20% des prises, et cela a permis, en grande partie, de tenir le budget des troupes huguenotes à partir des années 1580. Henri de Navarre n'aurait jamais pu remonter vers le nord à la fin des années 1580 s'il n'y avait pas eu le butin des entreprises maritimes de l'Atlantique. Et ça, c'est un point sur lequel on n'insiste jamais assez, qui est un point essentiel. La prospérité va être en fait cassée, non pas donc par les guerres de religion, mais va être cassée par le grand siège de La Rochelle. Le siège de La Rochelle, on le connaît, c'est la capitulation de 1628. Bon, parallèlement, la guerre est aussi en Cévennes, il faut rappeler Privas, etc., les guerres de Rohan. Mais le siège de La Rochelle, il a commencé dès 1622, dès la première opération où Louis XIII est descendu depuis Paris pour casser toutes les places de sûreté huguenotes et où une seule ville, il n'y touche pas au début, c'est La Rochelle. Mais par contre, toutes les villes de sûreté huguenotes qui ceinturent et protègent La Rochelle sont cassés, récupérés dès 1622-1623. Il y a un fort qu'installent Louis XIII et Richelieu dès 1626. Il y a une défaite navale importante. Autrement dit, pour aller vite, le grand siège, ne jamais oublier, c'est la soumission d'une des grandes villes huguenotes. Mais dans l'esprit du cardinal de Richelieu, ce n'est pas que cela. Le cardinal de Richelieu est évêque de Luçon, c'est à quelques 50 km au nord de La Rochelle. Le cardinal de Richelieu est un homme qui sait investir, qui est très proche, on dirait aujourd'hui, du lobby militaro-industriel du temps. Et casser La Rochelle, c'est surtout casser des concurrents sur le plan économique. Et La Rochelle est cassée. Et La Rochelle va mettre 30 ans à reconstituer sa flotte. C'est-à-dire entre 1630 et 1660. 30 ans à reconstituer sa flotte, 30 ans qui vont permettre surtout à La Rochelle de retrouver une place dans l'Atlantique. Et si en 1679, un petit marin huguenot né à Moëse, 16 ans ou 17 ans avant, peut embarquer à La Rochelle, c'est parce qu'en 1679, 6 ans avant la révocation, on est à une période d'apogée de la marine commerciale rochelaise. Les Rochelais ont obtenu en 20 ans le monopole de la traite de la fourrure en Nouvelle-France. en échange du ravitaillement de Québec et de Montréal, ils exigent d'avoir la totalité des fourrures à ramener en France, et ça c'est un point essentiel. Dès 1650, les bateaux Rochelais sont parmi les plus nombreux à Saint-Domingue, aux Antilles, non pas dans la traite. La Rochelle est peu engagée dans les premières opérations de traite négrière. Là où La Rochelle est une des spécialités, c'est ce qu'on appelle en direct, c'est ce que fera Elino, c'est-à-dire j'apporte aux Antilles ce que j'apporte à Québec et Montréal, c'est-à-dire la farine, le vin, l'eau de vie de cognac, etc. C'est-à-dire qu'on ravitaille et par contre on ramène le tabac, le sucre, l'indigo. Il n'y a quasiment pas d'opération de descendre vers l'Afrique. Ça c'est plus tard, c'est au XVIIIe siècle, après 1760. Mais là, on est sur ce qu'on appelle l'opération directe. Et Lino, c'est donc pas très étonnant. Si en 1679, il peut embarquer pour les Antilles, c'est tout simplement parce que il y a entre 400 et 450 bateaux qui partent par an à cette époque-là vers les Antilles depuis la Rochelle, vers les Antilles et le Canada. Le Canada, 10 bateaux par an. Les Antilles, entre 300 et 350. Hein. Bon, donc voilà l'ampleur du trafic. Donc, trouver un embarquement, c'est simple. Il commence comme mousse. Il commence comme simple mousse. Et vraisemblablement, quand on regarde à partir des généalogistes, il n'y a pas tellement de renseignements. À l'évidence, il était facile pour la famille Hinault de trouver un capitaine pour pouvoir l'embarquer. Là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, il ne reviendra pas. Il partira, mais ne reviendra pas. Ou tout du moins, s'il est revenu, c'est discrètement. Mais en 1679, d'après ce qu'il dit, il est parti aux Antilles et, je parle en français du 21e siècle, compte tenu des informations que j'ai de France, j'ai décidé de ne pas rentrer. 1679, c'est un moment où la monarchie reprend la répression contre les protestants. 1679, par exemple, il y a un texte très important qui annule ce qu'on appelait les chambres mi-parties, c'est-à-dire ces chambres qui permettaient la protection judiciaire des protestants. C'est une date absolument essentielle. Ensuite, on parle souvent en 1680 des dragonnades dans le Poitou. On est en 1679. Alors, est-ce que nous, on ne sait pas la date à laquelle ils refusent de partir? Est-ce 1680, 1681? Mais ce qu'on oublie généralement, c'est que les premières opérations de police et militaires avant le Poitou 1681 commencent avec l'intendant de Rochefort de Main dès les années 1679. De plus, en 1679, on commence à avoir une série de procédures contre les pasteurs. Le pasteur sur lequel je prépare actuellement un ouvrage, Élie Merlat de Sainte, ben sur le pasteur Merlat, 1679, comme par hasard, l'évêque de Sainte porte plainte contre Élie Merlat pour un livre qu'il a publié. Donc, pour les protestants, l'année 1679, c'est une année où ils ont l'impression de revivre ce qui s'est passé dans les années 1661-1665, où on oublie que 20 ans avant la révocation, il y a quand même eu 300 lieux de culte qui ont été interdits en France, hein, au début du règne personnel de Louis XIV. Donc, il ne rentre pas. Et la seule trace qu'on a de lui après, 1685, Boston. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1680-81? Eh bien, vraisemblablement, Saint-Domingue, Saint-Eustache, la Jamaïque, les Antilles françaises, 1679-1685. On a des éléments. Et dans le livre « Les Huguenots et l'Atlantique », un collègue notamment a travaillé sur le nombre de marins huguenots du rivage atlantique qui ne rentraient pas forcément au bout d'un voyage. Ils restaient un an, deux ans. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, généralement, soit ils restaient à Saint-Domingue. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, jusqu'en 1680, le gouverneur est un ancien protestant, mais un protestant qui, vraisemblablement, et on le voit à certaines choses, tolère la présence de protestants, alors que théoriquement le protestantisme est interdit dans les colonies françaises, il faut le rappeler. Bon. Ou, chose plus importante, et on a des traces archivistiques permettant de le prouver, ils se mettent à faire du trafic de contrebande, ce qu'on appelle l'interlope, entre ce qui est interdit. Il est interdit aux commerçants de français de travailler avec les Anglais de la Jamaïque, avec les Néerlandais de Saint-Eustache. Mais bon, les Néerlandais, ce sont les premiers importateurs en Europe de tabac. Ils ont besoin quelquefois du tabac qui manque dans leur... Alors ils essaient d'acheter discrètement du tabac à Saint-Domingue. Et donc, on s'aperçoit que ces protestants huguenots, eh bien, ils font embarquer sur des navires néerlandais, des compagnies hollandaises de commerce. Ils vont en Jamaïque. Et il y a tout un travail, et toutes ces îles des Antilles. Moi, j'ai dit que c'était un lieu d'attente du refuge, ces Antilles, avec ce qu'on sait, ce qui s'est passé. Ils sont en attente. En fait, ils ne reviendront que si les choses s'apaisent. Mais ça ne leur pose aucun problème, parce que Hollandais et Anglais, embarquer des Huguenots, ça ne pose aucun souci, notamment du côté des Néerlandais. Il ne faut pas oublier qu'il y a des liens, il y a toujours eu des liens très forts entre La Rochelle et les Pays-Bas. Dans les années 1566, quand les Pays-Bas, sous domination espagnole, se soulèvent contre les Espagnols et que les troupes espagnoles réussissent à contrôler ce qu'est la Belgique actuelle, etc., ce qui va faire la force des rebelles néerlandais en majorité protestante, mais tous n'étaient pas protestants, eh bien, ça va être leur marine. Et la marine néerlandaise, dans la Manche, elle a quelques difficultés. Quelle est la base où se réfugient tous les navires néerlandais, ce que l'on appelle les gueux de mer ? C'était La Rochelle. On a encore des insignes, des gueux de mer. On a deux exemples au musée Rochelet, au musée d'histoire protestante à La Rochelle. Ce qui fait que pour des Huguenots de Saint-Onge, des Huguenots d'Aunis, monter sur des navires néerlandais, ça ne posait pas de problème. J'ai un collègue, Willem Freyhoff, qui a travaillé sur les archives notariales de La Rochelle. Il relève des centaines de contrats d'armement où vous avez des marchands néerlandais installés à La Rochelle, un capitaine Rochelet, un équipage néerlandais, anglais, français, etc. Comme on a reparlé, on a dit à un moment que ces bateaux, c'était l'international calviniste. En plus, la langue ne pose pas de problème. Ce collègue, Willem Freyhoff, constate que très souvent dans les contrats, on demande à ce qu'il y ait un traducteur. Visiblement, quand ce sont des contrats entre néerlandais et rochelais, il n'y a pas besoin de traducteur. Hein. On se comprend entre néerlandais, on se comprend entre néerlandais et rochelais, et on se comprend sans difficulté, y compris avec les Anglais. Donc, ces marins rochelais. Et Lino fait partie, vraisemblablement, de ces centaines, voire peut-être milliers de marins qui assurent le lien entre La Rochelle et les Antilles, mais qui ne rentrent pas tout le temps. Et à partir de 1682, on a notamment un capitaine qui, rentrant à La Rochelle, dit à l'armateur « J'ai mis un an à rentrer parce que j'avais pas suffisamment de matelots pour rentrer. » Ça veut dire qu'il y a une désertion des marins protestants extrêmement importante. Et il n'y a pas de matelots catholiques permettant de remplacer. Ça se fera dans les 15 ou 20 ans plus tard, mais ce n'est pas le cas à ce moment-là. Il se réfugie à Boston en 1685. Pourquoi à Boston ? D'abord parce que les dragonnades sont passées. Et quand il s'installe à Boston, il ne faut pas oublier qu'il y a la grande dragonnade du Midi, qui date de printemps 1685. Autrement dit, c'est très clair. Et quand il arrive à Boston, il y a déjà des familles qui se sont réfugiées. Il se marie à Boston avec Suzanne Paré. Suzanne Paré, elle est avec ses parents. Elle vient d'où ? Elle vient de La Rochelle. Est-ce qu'il connaissait la famille dès 1679 ? On n'a pas d'éléments, mais il se marie avec une Rochelaise à Boston. Et à la Société d'histoire du protestantisme à Paris, il y a un document extrêmement intéressant qui date de 1685, où il est dit, je le cite dans le livre, je n'ai pas le temps de vous le lire, « Nous voyons arriver tous les jours en cette ville les marins protestants venant des Antilles. » Bon, donc les choses sont claires. Et ce sont donc, on le dit, plusieurs centaines qui se réfugient à Boston. Il ne reste pas à Boston, il part à New York. Entre ces deux moments-là, il a effectivement des armements. Mais pourquoi va-t-il à New York ? Tout simplement parce que New York est une ville qui est en plein développement économique et notamment de grands armateurs huguenots se sont installés à New York. Une collègue, Sarah Carlo, une collègue new-yorkaise, a travaillé sur la communauté huguenote de New York et a pu évaluer que sur 22 des plus grands armateurs new-yorkais en 1685, 17 sont des Français, 17 sont des Huguenots, dont 14 sont originaires d'Aunis et de Saint-Onge, essentiellement de La Rochelle. Autrement dit, le haut du négoce à New York sous Louis XIV est en fait tenu par des négociants huguenots originaires pour l'essentiel du littoral atlantique. Et là, on va lui confier en 1691, pour la première fois peut-être, on n'a pas de trace avant, il en parle peu, on va lui confier un navire. Et il doit aller chercher, alors ça c'est une route classique, on va chercher le sucre en Jamaïque. Et il va chercher du sucre en Jamaïque. Seul problème, c'est qu'arrivé en Jamaïque, il est arrêté par un corsaire de Saint-Malo. Un corsaire de Saint-Malo qui le ramène en 1692. Vous avez sur la carte 1692. Alors c'est un peu spécial, parce qu'en fait c'est une pratique des corsaires malouins. Les corsaires malouins montaient des petits navires, une centaine, 120 tonneaux, des petits navires, mais extrêmement rapides, avec peu d'hommes. Ils s'attaquaient avec des navires de commerce qui étaient beaucoup plus gros qu'eux, et avec 15 à 20 hommes d'équipage. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On n'allait pas prendre le bateau, c'est compliqué de prendre le bateau. En fait, ce que on saisissait le capitaine, le second, on le ramenait en France et on demandait une rançon à l'armateur dans les colonies. Autrement dit, c'est un système de kidnapping et de rançonnage à partir du moment où le navire... Le résultat, c'est que là, Elino, capitaine du navire, se retrouve à Saint-Malo. Il se retrouve à Saint-Malo et il attend que le boiteux, c'est le nom de l'armateur Huguenot de New York qui l'a nommé comme capitaine, envoie la rançon. Le seul problème, c'est qu'arrivé à Saint-Malo, on s'intéresse à lui. Qui s'intéresse à lui? La justice du roi. Et ce sont les juges de l'amirauté. Elino, c'est un nom français, présenté comme un capitaine de navire anglais. Bon, et le résultat, c'est que les juges de l'amirauté l'arrêtent et vont ressortir toute la législation de Louis XIV qui interdisait aux marins français de sortir. Alors au début, on a une législation qui date dès les années 1663. Au moment de la série de guerres maritimes de Louis XIV, il est interdit à un marin français de sortir sans un passeport, sans autorisation. Autrement dit, en 1679, si Elino et les marins peuvent sortir, c'est tout simplement parce que les capitaines, les armateurs ont des passeports permettant la sortie. Mais en 1679, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, suspense, il y a un autre texte qui est important. C'est que désormais, ce ne sont pas des textes interdisant aux marins français de partir. On interdit aux marins de la RPR, c'est-à-dire aux protestants, de sortir. Là, ce sont eux qui sont particulièrement visés. Et à partir de ce moment-là, la justice considère qu'Elino tombe sous les coups de cette législation qui interdit à un marin. Il est resté, il est déserteur. Il est protestant, déserteur, etc. Bref, il a tout contre lui. Les négociants malouins sont très embêtés. Les négociants malouins sont extrêmement embêtés parce que eux, ils veulent absolument récupérer la rançon. Si Elino est arrêté et envoyé aux galères, comme le veulent les juges de l'amirauté, ils perdent la rançon, ils perdent l'opération. Donc qui fait appel au Parlement de Rennes? Elino fait appel au Parlement de Rennes pour éviter les galères. Mais il est soutenu par les corsaires catholiques malouins, qui, eux, veulent que le Parlement casse la décision parce qu'eux, ils voient le côté spéculatif, économique de l'affaire. Ils perdent tous les deux. Et le résultat, la deuxième carte, le résultat, c'est qu'en 1693, il est condamné aux galères. Et il y a cette longue chaîne, la chaîne de Bretagne, qui part de Saint-Malo, Rennes, Angers, Moulins, Lyon, Pont-Saint-Esprit, Marseille. Donc en vert, c'est son trajet. 200 galériens. 200 galériens qui mettent près de 2 mois et demi à faire le trajet, dans des conditions dantesques, où généralement on en perd 1 sur 4. Alors il faut savoir que ce n'est pas l'administration qui s'occupe, ce sont en fait des entreprises privées à qui on sous-loue l'opération. Donc le résultat, c'est que ces hommes qui sont des entreprises de voyage des galériens ne les nourrissent pas, les mettent dans des conditions terribles, parce que ça permet de détourner l'argent que donne l'administration royale pour le transport des galériens. Donc ils arrivent totalement épuisés. La chaîne de Bretagne, c'est l'une des chaînes les plus épuisantes, dans la mesure où c'est une des chaînes les plus longues. Et même s'ils ne font pas à pied Lyon, Pont-Saint-Esprit, Marseille, parce qu'ils montent à bord d'étapes sur le Rhône, sur des barques, etc., l'épuisement est total. Donc, 1793, il se retrouve aux galères à Marseille, 6 mois sur la Vieille Madame, c'est le nom de la galère, 6 mois sur la Magnanime, Rassurez-vous, il n'a vraisemblablement pas navigué, quasiment pas de galériens huguenots ont navigué. En fait, ils étaient attachés aux galères. Simplement, au bout d'un an, Elino paraît comme étant un des plus opiniâtres. Alors, ça veut dire quoi, un des plus opiniâtres? Eh bien, il y avait une tradition chez les galériens protestants. C'était, de temps en temps, d'entonner les psaumes. D'entonner les psaumes, c'était un acte de résistance non violente. Et semble-t-il que Elino n'était pas un des derniers. Le résultat, c'est qu'il est retiré de la galère, mauvais exemple, et avec 10, 15 d'entre eux, ils sont enfermés dans la citadelle, une citadelle à Marseille. Et comme les conditions ne sont pas assez fortes, c'est parce qu'au bout de 3-4 mois, ils refusent l'abjuration. Eh bien, dans ces cas-là, étape ultime, eh bien, on le met au château d'If, qui est la pire des conditions pour pouvoir survivre. Alors, on a un certain nombre d'éléments. D'abord, on a un galérien du Poitou qui a pu transmettre une lettre où il dit « Est arrivé aujourd'hui un marin anglais, mais qui est un Rochelais. » Donc, on a un peu sa date d'arrivée. Les conditions pendant cette période 1793-1794, c'est 4 ans. 4 ans d'enfermement dans le château d'If. Alors, on a un certain nombre, on a des descriptions étonnantes. D'abord, on a des descriptions, j'ai envie de dire, misérabilistes, le mot convient pas. Mais des conditions très très dures sur le plan de l'alimentation, sur le plan de l'hygiène, etc. Il y a des pressions extrêmement fortes, il y a des convertisseurs qui viennent au moment où tout d'un coup on oublie de les alimenter, par exemple, ou en période d'hiver, il fait extrêmement froid, vous devriez vous convertir, etc. Ils se plaignent. Et l'intendant fait faire une enquête. Il y a un médecin qui vient. Et le rapport du médecin, on l'a, et il explique que, mais ils vont très bien. Mais en fait, ils ont été changés de cellules, on les a mis dans de bonnes conditions, etc. Donc, il y a un certain nombre d'éléments. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que ce n'est pas si fermé que cela. Et Lino dit qu'il a réussi à avoir une Bible en anglais. Et c'est grâce à cette Bible en anglais qu'il a pu continuer à lire, etc. Et qu'il a trouvé son chemin spirituel. Il y a aussi d'autres ouvrages qui circulent. Et pendant ces 4 années-là, le moment important du château d'If, quand on voit transformer ce qu'il écrit, on a envie de dire en anglais « born again ». C'est-à-dire que ce moment d'enfermement, c'est aussi une expérience mystique, et à un tel point qu'on va appeler Lino le mystique des galères. Hein, c'est son surnom qui est donné. Ce mystique des galères, il va réussir à passer des lettres à l'extérieur. Et on est frappé quand même, hein, la Bible anglaise rentre. Là, bon, la corruption, ça existe chez les gardiens, chez les marins, c'est comme ça que ça circule. Mais surtout, il va être héroïsé par quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Jean Morin. Alors, qui est Jean Morin? Ben, c'est Jean Morin, s'il n'existait pas, nous n'aurions quasiment rien sur Élie. Jean Morin, c'est son pasteur. C'est le pasteur qu'il a eu et qui lui a fait son éducation religieuse à Moëz. Jean Morin, il est réfugié à Berg-op-Zoom, au nord, dans les Provinces Unies, et il garde le contact à la fois avec les familles qui sont restées en France, sur lesquelles il n'a pas une excellente opinion. Ceux qui sont restés en France, pour le pasteur Jean Morin, sont ceux qui ont cédé. Une partie des familles sont autour de lui. Ça, c'est un travail qu'on commence à faire, hein, l'importance du pasteur qui agrège autour de lui des familles qui viennent de son église d'origine. Et Jean Morin apprend que deux de ces à qui il a fait le catéchiste dans les années 1663-1670, Bridon et Nau, sont aux galères. Et Morin va entretenir une correspondance avec Elino depuis les Provinces Unies. Et quand il découvre ces échanges, c'est lui qui va publier au début du XVIIIe siècle en 1701 l'ouvrage qu'il construit à partir d'extraits des lettres qu'il envoie à Elino, d'extraits de lettres que Elino envoie, des cantiques et des psaumes qu'écrit Elino au château d'If et il les met à la fin de l'ouvrage. Autrement dit, c'est Jean Morin, le pasteur, qu'il a eu enfant, qui lui a fait son éducation, qui va construire le livre à sa gloire. C'est lui qui va le construire comme confesseur du Christ. En 1698, il sera libéré sur intervention de la monarchie anglaise. Et la monarchie anglaise, là, il n'y a pas essayé de libérer les Huguenots. C'est une démarche de l'ambassadeur d'Angleterre en France qui exige que les Anglais soient libérés. Alors, il y a un débat sur la naturalisation des Linots. J'y reviendrai rapidement. Mais ça marche. Alors, c'est 7 ou 8 libérés. Les Provinces-Unies vont réussir au moment de la paix de Ryswick. C'est la paix de Ryswick de 98. Il y a un accord sur les échanges de prisonniers. Bon, on met quelques Huguenots qu'on va libérer dans le cadre des échanges de prisonniers. Mais ça veut dire que le réseau auprès de la monarchie britannique, a fonctionné. Tout à l'heure, je vous ai dit, n'oubliez pas qu'il a obtenu une Bible en anglais au château d'If. Donc il y avait un véritable travail auprès des galériens de soutien qui venait de Suisse, qui venait des Pays-Bas, mais qui venait aussi d'Angleterre. Il y a vraisemblablement aussi le rôle de la famille à New York, qui essaie d'influencer, d'essayer de faire sortir le mari, le père. Résultat, il sort, il va à Neuchâtel, Provinces Unies. Et en quoi c'est important? Et aux Provinces Unies, qu'est-ce qu'il l'attend? 300 livres anglaises. L'envoi du roi d'Angleterre pour qu'il puisse envoyer ces 300 livres acquis aux galériens à Marseille. Donc, il fait partie d'un réseau de soutien aux galères. C'est un exemple. Alors, le livre n'est pas encore publié. Mais quand, en 1701, le pasteur Morin va publier ce livre sur le mystique des galères, sur un des plus grands confesseurs du Christ, la préface, c'est le remerciement à l'ambassadeur d'Angleterre en France. Donc, les choses sont claires. En 1704, arrivé à New York, on sent qu'il y a, au bout de 6 ans, il joue un rôle important dans la communauté huguenote de New York, environ 1 millier de personnes, pas négligeable. Il fait partie du consistoire. Et en 1704, on le voit passer à l'anglicanisme. Il le voit passer à l'anglicanisme et il le justifie auprès du pasteur Morin en disant « Si je veux continuer dans mon métier de marinier, il me faut devenir anglais. » Et devenir anglais, pour lui, dans son esprit, c'est aller vers l'église presbytérienne, c'est l'église d'Angleterre. Donc, on a l'impression que ce n'est pas un choix religieux, que c'est un choix professionnel, et il va jouer un rôle important dans l'église anglicane. Alors l'église anglicane, dans les colonies anglaises d'Amérique, c'est particulier, c'est beaucoup plus facile pour les Huguenots qu'en Angleterre, il n'y a pas d'évêque. C'est l'évêque de Londres qui est le sommet de la hiérarchie des églises anglicanes dans les colonies anglaises. Et dans les pages que Bertrand van Ruymbeck l'expliquerait mieux que ça, parce qu'il est un des spécialistes justement des Huguenots dans les colonies anglaises, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, les Huguenots intègrent l'église anglicane dans les colonies plus facilement parce qu'il n'y a pas la chape de plomb, je dirais, hiérarchique que l'anglicanisme a conservée. Petite parenthèse, mon pasteur Élie Merlat, sur lequel je travaille, quand il est condamné au bannissement en 1680, il a fait une pérégrination, il est passé par l'Angleterre à l'époque de Cromwell, et quand il se demande, plutôt son ami d'enfance explique, mais où va-t-il aller? Il est banni, où va-t-il? On dit qu'il habite Sainte, donc il a des chances pour qu'il aille vers les Pays-Bas et l'Angleterre. Et il ne veut pas aller en Angleterre parce que le climat n'y est pas bon. Alors je ne sais pas si c'est le vrai climat ou si c'est l'ambiance anglaise. Mais, et dans une deuxième lettre, Elino, en 1702, le dit très bien, il a dit « on ne m'accusera plus ainsi d'être dissenter », c'est-à-dire d'être dissident. Alors il va être catéchiste dans l'église d'Angleterre et c'est dans le cadre de sa mission dans la communauté anglicane de New York qu'il va fonder cette école. Une école qui va avoir une 20aine d'élèves à partir de 1704, va avoir jusqu'à 80 élèves, noirs, amérindiens. Et cette école a profondément marqué les esprits. D'abord, elle a secoué la communauté. Elle a secoué la communauté globale, la communauté de New York, d'abord parce que, et ça c'est un point sur lequel on travaille dessus, j'ai un collègue canadien qui travaille sur la question, le comportement des Français vis-à-vis des Amérindiens est totalement différent selon qu'on est catholique ou selon qu'on est protestant. selon qu'on est catholique, on voit la Nouvelle-France, conversion, et même, il y a eu un livre important de Gilles Avard sur le fait que le métissage n'était pas interdit, etc. Donc, à partir du moment où un Amérindien était baptisé, les mariages mixtes étaient possibles. Sous-entendu, mariage mixte, ça veut dire un Européen et une Amérindienne, et pas l'inverse. Mais ce qui frappe, c'est que du côté des colonies anglaises, il y a hermétisme. Et notamment, il y a une Amérindienne dans un mémoire qui explique qu'elle ne comprend pas pourquoi les hommes en noir ne s'occupent pas d'elle et n'essaient pas de les convertir comme les jésuites. Et en fait, les hommes en noir, c'était des pasteurs néerlandais qui habitaient Albany. Mais pour les Néerlandais, parce que New York, avant New York, c'était New Amsterdam, il ne faut pas oublier, le pasteur emmené dans les compagnies néerlandaises de commerce, sa pastorale, c'était les colons. Il n'avait absolument pas la mission de convertir les Amérindiens ou de convertir les premiers esclaves. Il n'y avait pas d'opération de conversion. Ce que l'on constate, c'est que du côté protestant, les 3-4 opérations de conversion que l'on connaît viennent des Huguenots, viennent des Français. Et quand il explique l'origine de son école, alors c'est une école où on apprend à lire et à écrire, mais c'est une école qui entend convertir. Il faut que les enfants de nègres, entre guillemets, c'est une citation, il le dit, deviennent des chrétiens. Alors ça pose des difficultés quand même, parce qu'en 1714, il y a une révolte. Et comme par hasard dans la révolte, la première révolte d'esclaves à New York et d'Amérindiens, il y a un bon nombre d'élèves d'Elino. Et là, il y a une pression des propriétaires en disant « il faut fermer cette école ». En fait, c'est un lieu où se prépare la révolte des esclaves, etc. Et Elino est obligé de faire une lettre au gouverneur pour défendre son école en disant « le baptême leur apporte la liberté spirituelle, mais il ne s'agit pas de s'engager dans une liberté terrestre ». Autrement dit, il n'y a pas d'abolition de l'esclavage à la sortie de cette école. Il veut d'abord en faire des chrétiens, mais on sent que dans cette phrase, c'est pour plus pour protéger son école, mais qu'il y a un lien extrêmement fort entre Elino et ses élèves. Il réussira à protéger son école. Il réussira à protéger son école. Elle existera donc jusqu'à sa mort en 1722. Il faudra que 1718-1720, il aura du soutien de tous les courants bibliques qui arrivent d'Angleterre, qui lui envoient des Bibles pour son école, ce qui prouve qu'il a un soutien de l'Association pour la diffusion de la Bible, etc. D'Angleterre, on le soutient dans le travail qu'il fait auprès des esclaves africains et auprès de petites minorités amérindiennes. Autrement dit, il joue un rôle absolument décisif, puisqu'il n'y a que 3 écoles à New York en 1715, et une des 3 écoles, c'est celle d'Elino. Donc c'est un personnage qui aujourd'hui, quand on en parle à New York, est relativement peu connu, alors que rien que dans le domaine de l'éducation, rien que dans le domaine de l'instruction religieuse, c'est quelqu'un d'absolument fondamental et qui devrait avoir sa place dans la mémoire religieuse de la ville de New York. On le disait tout à l'heure, Elino, ce qui est un peu exceptionnel dans cette épopée, c'est que son avis commence de... C'est une totale banalité. Elino, c'est un marin, la famille de marins, sur un littoral. Autrement dit, tout le début de sa vie est d'une extraordinaire banalité. Et puis, elle termine de manière exceptionnelle. Et on sent à quel point la période des galères, c'est-à-dire cette période notamment de l'incarcération au château d'If, entre 1494 et 1498, ces 4 années, ça a vraiment été un moment fondamental sur le plan spirituel. Et il y a notamment un texte de lui, j'ai peut-être le temps rapidement de vous lire un extrait. Cet dernier article est fortement imprimé dans mon cœur, car je suis très persuadé qu'il n'y a que la grandeur de mes crimes énormes qui ont irrité la clémence de mon Dieu et qui tiennent encore aujourd'hui sa main levée sur moi pour me punir. Mais que dis-je, monsieur ? Il s'adresse à Morin. C'est plutôt sa miséricorde qui m'embrasse à présent au lieu que les ondes de sa justice m'inondaient, Quand j'étais dans le monde en pleine liberté et qu'il me permettait que je multipliasse mes ordures, jusqu'à ce qu'enfin il a eu pitié de moi, sa verge a arrêté le torrent de mes iniquités. Oh, qu'il m'est bon d'avoir été affligé, car hélas, avant que de l'être, j'allais à l'envers à travers champs. Oh Dieu, je t'en rends louange et grâce immortelle, et toutes les puissances de mon âme avec les membres de mon corps t'en glorifieront dans le temps et dans l'éternité. Au reste, Dieu qui contemple les mouvements de mon cœur sait très parfaitement que j'aime mes ennemis. Je dis ceux qui m'ont jugé et ceux qui me tiennent encore dans les liens. Je plains leur malheur, je prie de tout mon cœur le Seigneur qu'il leur pardonne. Il ne cesse point de nous oppresser. Notre joug est aussi pesant qu'il n'a jamais été. Car, monsieur, on n'a rien relâché de cette grande sévérité qu'on exerce sur nous depuis 20 mois, à la réserve que depuis la mort de ce pauvre fidèle, un galérien, mais avec qui j'étais, on nous a permis de nous faire saigner, etc. Mais sortir du monde, c'est sortir des impuretés. Donc, y a l'idée que ces 4 années, ce que j'évoquais, c'est born again. Et ce qui est tout aussi intéressant, c'est que ce parcours spirituel va l'emmener dans une mission extrêmement particulière, qui est cette école de New York, dans cette école de New York. Et là, il devient exceptionnel. Mais vraisemblablement, ce que n'avait pas prévu le pasteur Morin, qui décède en 1712, autrement dit, qui ne verra pas l'école d'Elino jusqu'en 1722, et on n'a pas de correspondance entre Morin et Elino à ce retour de New York. Et le livre est publié par Morin en 1701 en Angleterre et en 1704 après. Eh bien, ce qu'il faut dire, c'est que Jean Morin ne s'attendait vraisemblablement pas à ce que le parcours spirituel d'Elino s'investisse dans cette école. C'est un parcours donc extrêmement, extrêmement saisissant, mais par contre, il est absolument évident que le livre a circulé. Il y a une version anglaise à Londres, le livre a circulé. J'ai fait savoir s'il y avait un exemplaire dans les bibliothèques américaines, on n'en a pas retrouvé, mais le livre a dû circuler. Autrement dit, ce que le pasteur Jean Morin a fait pour le petit matelot et l'enfant de marin Saint-Ongeais qu'il a éduqué dans les années 1660-1670, ce qu'il a fait, c'est en le construisant, hein, en le construisant comme confesseur, en le construisant comme mystique. Quand il est revenu à New York, eh bien, il est évident que ce n'était plus le capitaine qui rentrait, mais c'était le confesseur du Christ. Et le livre a participé, bien entendu, et a été un outil de reconnaissance dans la communauté huguenote, a été un outil de reconnaissance à Londres, a été un outil de reconnaissance pour qu'il puisse s'investir dans son projet d'école. Et ça, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel dans l'histoire du refuge. Quelques 3000 huguenots se sont réfugiés dans les colonies anglaises d'Amérique, mais Elino a une place extrêmement particulière, justement, avec cette école. Je vous remercie.
Bien, merci pour cette présentation et pour ce parcours remarquable de cet homme. En vous écoutant, je redécouvre à nouveau cette épopée et j'avoue que je suis frappé, impressionné par deux choses. D'abord, évidemment, l'engagement d'Elino après son passage au château d'If et ce que vous avez appelé ce mouvement que vous comparez au born again. Et ce mystique protestant, alors on pourrait discuter du terme, évidemment, hein, parce que je ne pense pas que chez Elino, il y ait du Jean de Labadie, ou voilà, ce genre de mysticisme, mais il n'empêche, c'est vrai qu'il fait une véritable expérience spirituelle, et qu'on a le sentiment qu'il a une vraie connaissance personnelle, à ce moment-là, de Dieu, au travers de les lectures de la Bible, hein, vous l'avez très bien dit. L'autre chose qui me marque, ce qui est très courant dans le protestantisme français, on loue souvent la mémoire huguenote, on oublie que les huguenots ont oublié Marie Durand pendant de nombreuses années, qu'il a fallu le travail de Daniel Benoît pour faire connaître Marie Durand, qui même chez elle, en 1895, quand Daniel Benoît se rend dans son village, on ne sait plus qui est Marie Durand. On ne sait plus qui est Marie Durand. Donc il a fallu le travail d'un historien pour faire redécouvrir cette figure qui aujourd'hui est la figure mise en avant, hein, plutôt que les camisards, comme figure de la résistance, parce que justement, elle incarne une résistance pacifique. Et évidemment, ce qui pour moi m'attriste, c'est que cet Hélino pourrait aussi, et actuellement ne l'incarne pas, hein, pourrait aussi incarner cet autre aspect d'une résistance pacifique, parce que dans le château d'If, dans les galères, même si ça n'a pas duré 38 ans, cet homme a vécu un véritable enfer. Enfin, je vous invite vraiment à découvrir ce personnage au travers de ce texte restitué ici par Didier Poton. Mais c'est un véritable enfer qu'il traverse. On n'imagine pas ce que c'est une chaîne de galériens. Hein, je pense que vous allez pouvoir nous en dire un peu plus. En tout cas, c'est une de mes questions, que vous nous disiez un peu plus de ce quotidien, de la chaîne de galériens qui est livrée véritablement en spectacle, hein, face à tous ces villageois, ces villages qu'ils traversent et ainsi de suite. On n'imagine pas ensuite, vous l'avez décrit quelque peu, l'horreur des conditions de ces prisonniers qui sont dans des culs de basse-fosse, les murs suintent d'humidité, c'est à peine si on leur donne un quignon de pain, et ça c'est pas une journée, ce sont des jours qui se multiplient, des mois, des années, et c'est au milieu de ça que cet homme eh bien, redécouvre la Bible, la lit, et résiste, est opiniâtre, comme vous l'avez dit, d'abord dans les galères, en chantant les psaumes. Il y a là une figure, il me semble, extraordinaire, et j'espère en tout cas que cette conférence, cet ouvrage et peut-être la ville de New York. Alors évidemment, on a du mal à pas regretter le temps où les mille huguenots de New York tenaient le négoce new-yorkais, comme vous l'avez dit. Alors, aujourd'hui, les huguenots ont disparu. En tout cas, il reste très peu de la mémoire huguenote là-bas.
Voilà. Il y a une petite mémoire huguenote.
Il y a une petite mémoire huguenote, oui.
À New Rochelle.
Voilà. Mais en tout cas, on espère que cet ouvrage contribuera à faire redécouvrir la figure d'Hélino. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus des conditions matérielles de ces chaînes, de ces prisonniers, de ces galériens? Vous l'avez évoqué un petit peu, mais il y a aussi la souffrance de ces galériens, sans cesse attachés au bateau, même s'ils ne combattent pas. Ils sont là, et le quotidien de ces galériens, sans cesse attachés à ces bateaux, est abject. Et puis après, on laissera le public poser ses questions.
Alors, les conditions déjà du voyage était considéré comme la première punition du condamné. C'est-à-dire qu'il fallait que le voyage, là, entre Saint-Malo et Marseille, soit dans les pires conditions possibles. Soit dans les pires conditions possibles, parce que c'était, bien entendu, une des parties de la punition du galérien, c'était le chemin entre le lieu de condamnation et Marseille. Alors, c'était aussi important parce qu'il s'agissait de montrer aux populations ce qu'était l'horreur du condamné, ce qu'était l'horreur de la condamnation. Il s'agissait, bien entendu, de montrer un exemple. Bon. Alors, les choses s'aggravaient, je l'ai dit, parce qu'en plus, c'était un véritable marché, la chaîne. Et les entreprises qui s'occupaient du déplacement récupéraient surtout et distribuaient pas aux prisonniers. Parce qu'on a eu des périodes différentes selon les ministres de la Marine. Dans les périodes de guerre, on a besoin de galériens, il s'agit quand même que tous ne meurent pas en route. Bon. Il s'agit quand même que dans les périodes de guerre, on fait en sorte que les conditions s'améliorent, on surveille un petit peu plus. Il y a eu 1500, d'après André Gisberg, il y a eu à peu près 1550 condamnations galériens effectivement enregistrées à Marseille. Alors, ils étaient au début mis sur des galères. Les galères ne sortaient pour ainsi dire pas. Ils vivaient quasiment sur des galères qui étaient très souvent pas en état de naviguer, dans des conditions sanitaires, et surtout, ils étaient livrés, je dirais, à la violence de la chiourme, c'est-à-dire des capitaines qui étaient chargés de quoi? Qui étaient tout simplement chargés de les mettre dans des situations où il fallait qu'ils cèdent, c'est-à-dire qu'ils abjurent. C'est-à-dire, régulièrement, il y avait les convertisseurs qui venaient. Tu peux te sauver si tu abjures. Et c'est tout simplement ça. Et il y a eu très, très peu, mais il y a eu des conversions, tout simplement, parce qu'il y en avait qui ne pouvaient plus supporter les conditions qu'on leur faisait vivre. Il y a aussi un autre élément, c'est tout ce qui était les gardiens autour, qui essayaient systématiquement. La haine du huguenot, ça a fonctionné aussi, hein, faut pas oublier. La haine du huguenot, le huguenot qui était représenté comme l'ennemi de l'intérieur, Et il était évident qu'il y a des brutalités qui étaient faites par la troupe, qui n'étaient pas forcément des ordres des officiers, mais tabasser, pour reprendre une expression, un galérien, c'était pas forcément répréhensible. Donc ils sont dans un climat de violence permanente, dans un climat de pression permanente, dans des conditions alimentaires d'hygiène, on peut dire, absolument catastrophiques. Mais sur les galères, ça va. Le pire, c'est quand ils sont condamnés dans la citadelle ou condamnés au château d'If, où là, ils sont véritablement dans des cachots qui sont au niveau de la mer. Alors, la Méditerranée, c'est bien, vous connaissez, mais le Mistral, la Méditerranée, l'hiver, l'humidité, etc., c'est absolument... Et les descriptions que l'on a, et notamment, il décrit à un moment ses conditions de vie, on se demande comment la vingtaine qui était autour des linots dans ces cachots, on fait le bilan, on se demande comment il n'y a pas eu plus de morts. Hein. Il y a une résistance, moi je suis frappé par la capacité de résistance des conditions dans lesquelles ils sont. Hein. Jusqu'à l'époque des derniers galériens, il y a à peu près la mortalité, mais après 10 ou 15 ans de galère, il y a à peu près un galérien sur trois, un tiers des galériens meurt aux galères. Le taux. Mais les conditions sont absolument effroyables. Mais il faut les mettre. Il y a deux choses. Il y a à la fois, il faut que on les laisse en même temps diffuser l'information comme quoi c'est horrible. Parce qu'il faut absolument que l'information circule en France auprès des populations de nouveaux convertis en disant voilà ce qui vous attend si vous continuez à aller dans les assemblées, etc. Donc on diffuse l'horreur. C'est-à-dire qu'ils sont un contre-spectacle pour tenir les populations de nouveaux convertis. Et en même temps, il faut absolument qu'ils cèdent. Et pour les convertisseurs, pour les congrégations religieuses, pour ceux qui voulaient avoir leur conversion, il est évident que c'était une victoire. Et on peut véritablement parler qu'il y avait une véritable compétition entre les convertisseurs, une compétition entre les ordres religieux pour obtenir les conversions des protestants, individuellement ou collectivement. Mais ce qui est étonnant en même temps, c'est que si on isole Elino, et quelques-uns d'entre eux, y compris Bridon, qui est aussi de Moëse, je l'évoquais, c'est parce que leur résistance sur les galères donne l'exemple aux autres. Ils peuvent mobiliser un équipage entier. Donc on les isole. Le terme d'opiniâtre, ce n'est pas le nom qu'ils se donnent, hein, c'était le nom que donnaient les marins et les intendants. Un opiniâtre, c'est celui qui ne cède pas à la conversion. Et le résultat, c'est qu'il fallait absolument les sortir. Il fallait les sortir des galères parce qu'ils étaient en train, par le chant des psaumes, par le refus de telle ou telle chose, etc., d'organiser une résistance non violente sur les galères qui posait un vrai problème. Donc on les sort aussi pour ça, c'est parce qu'ils ne sont pas simplement opiniâtres pour eux. Il y a une vraie stratégie collective, qui vole collective de résistance sur les galères.
Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que là, on ne parle pas d'un vieillard comme Étienne Durand, hein,
non.
Le père de Marie Durand. On parle d'un homme qui a 30 ans, hein,
il a 35,
né en 62, 1693, il a 31 ans.
Il a 31 ans, il a 35 ans. C'est, Bridon, qui est arrêté avec lui aussi de Moëse, il a 2-3 ans de plus que lui, mais ce sont des hommes qui n'ont pas 40 ans. Alors, cela dit, faut relativiser avec l'espérance de vie de l'époque, mais c'est certain que ce sont des 30 ans, pour des marins, ce sont des hommes qui sont en pleine force de l'âge, une fois qu'on a passé le cap de la mortalité infantile et juvénile qui est importante.
Merci. Et je suppose qu'il y a des questions, il y a un micro, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des éclaircissements que vous voudriez avoir sur certains points, des remarques.
Bonjour à tous, Amine de l'École des Mines. Je voulais savoir, par rapport à Elino, il a été exilé parce qu'il y a une loi qui oblige les Français, quand ils veulent quitter la France, ils doivent le dire. Ben pourquoi il n'a pas changé de nationalité, tout simplement?
Pourquoi il n'a pas...
Il n'a pas changé de nationalité.
Alors, quand il part en 1679, c'est un des marins qui part dans les 400 bateaux qui vont au-delà de l'Atlantique dans le cadre du commerce. Donc il n'avait aucune raison de changer. De plus, il faut savoir que les éléments que nous avons, on a très peu de choses, ils sont persuadés la plupart que cette deuxième vague de répression des années 1679, c'est qu'un mauvais moment a passé. Hein, on aura le même sentiment après 1685, la révocation. Il y a beaucoup de fugitifs, et notamment Bertrand van Drunbeek, dans un ou deux textes, l'a montré. Ils sont persuadés qu'ils vont revenir en France, que ça ne va pas durer. Et ce n'est que 5-10 ans après qu'ils se disent, bon, il n'y a pas de doute, il va falloir s'établir, parce que Louis XIV ne reviendra pas sur la révocation. Donc au début, pour ces hommes, ils se mettent à l'abri. Deuxièmement, il y a l'idée qu'ils peuvent continuer leur métier aux Caraïbes et dans les Antilles. Et dès qu'il y a, on commence à avoir des ordres qui arrivent de France de se méfier des protestants à Saint-Domingue, à la Martinique et à la Guadeloupe dans les Antilles françaises, qu'on change les gouverneurs qui sont un peu trop gentils avec les protestants un peu trop tolérants, là on voit très nettement qu'ils partent en Jamaïque et qu'ils partent. Mais pour eux, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. En fait, quand il va à Boston, il ne change même pas aussi. On a pas de date précise sur sa naturalisation anglaise. En fait, comme le montre Bertrand van Drunbeek, il y a deux étapes pour un protestant pour être protégé du roi d'Angleterre. Il y a ce qu'on appelle la désignation, denization, c'est-à-dire que là, c'est le roi d'Angleterre qui prend sous sa protection telle ou telle personne. C'est un lien personnel. Bon. Deuxième étape, la nationalisation, c'est-à-dire le roi d'Angleterre, mais aussi le Parlement d'Angleterre, qui octroie une lettre de naturalisation. Et il y a ces deux étapes. Or, ce qui se passe, c'est que beaucoup de Huguenots n'ont eu que la première étape dans un premier temps. Autrement dit, ils restaient français, mais ils étaient sous la protection du roi d'Angleterre, tout simplement parce que, j'ai envie de dire, on est un peu dans le droit d'asile. La liberté de conscience n'existe plus en France. Je me mets sous la protection du roi d'Angleterre le temps que ça va durer, mais je reste français. Et ce n'est que quand il revient à New York après avoir passé les galères et qu'il, je l'évoquais, il décide de demander de devenir anglais, et pour lui devenir anglais va de pair avec devenir anglican. Et là il obtient effectivement. Mais Bertrand van Drunbeek montre notamment que très souvent, il y a eu une confusion entre les deux termes, et que l'administration française et la justice française jouaient là-dessus. Pour les juges de l'amirauté de La Rochelle, il n'a pas pu démontrer qu'il était anglais, et effectivement, il ne l'était pas quand il a été arrêté, il était simplement sous la protection du roi d'Angleterre. Donc pour la législation française, c'est un marin fugitif qui a trahi son pays pour se mettre au service d'un roi ennemi. Alors, il ne faut pas oublier qu'en plus, à ce moment-là, on est très, très sensible, notamment pendant la guerre de Hollande. On a très, très peur que les marins protestants, il faut bien imaginer que les marins protestants représentent l'essentiel des marins entre Loire et Gironde en France. L'ampleur de la présence de la confession protestante dans les milieux maritimes entre Loire et Gironde est importante, y compris en Bas-Poitou. Bon. Et le résultat, c'est qu'il tombe sous le coup de la trahison. Il tombe sous le coup de la trahison. Quand il est libéré en 1698, le roi d'Angleterre demande la libération des Anglais qui ont été arrêtés. Et là, il a vraiment joué d'un droit de grâce, parce qu'il n'était toujours pas anglais. En fait, il n'est anglais que quand il revient à New York et qu'il devient anglican. Et ça, c'est vraisemblablement à partir de 1698-1700. On n'a pas la date exacte. Mais il lie sa naturalisation anglaise, comme il dit, au fait de ne plus être dissident, sous-entendu huguenot. Parce qu'on se méfie. À huguenot, il y a un puritain qui sommeille derrière. Alors, on se méfie chez les Anglais. Et il devient... il identifie très bien la nationalité anglaise à l'appartenance à l'anglicanisme. C'est extrêmement intéressant. Alors, c'était beaucoup plus facile dans les colonies anglaises. Il n'y avait pas d'évêques pour surveiller, etc. Ça, je l'ai dit. Et c'était le fait que les quelques 3 à 4 000 huguenots n'ont pas tous été naturalisés dans les colonies anglaises d'Amérique. La plupart étaient uniquement dénisés sous la protection du roi d'Angleterre. Mais en fait, dans les colonies, on faisait aucune différence entre les deux. L'administration britannique ne faisait aucune différence entre les deux statuts. Mais c'est très tardivement dans sa vie qu'il décide de devenir anglais. C'est quand il est sorti des galères et tout simplement il revient de France en disant « Bon, bah, c'est terminé, il faut qu'on s'établisse, nous ne reviendrons pas en France. »
Je pense qu'il y a l'idée chez les Huguenots hein, qu'il est impensable pour eux que le roi de France les persécute trop longtemps. Enfin, ils ont été fidèles à la monarchie, notamment sous la Fronde et ainsi de suite. Donc c'est impensable d'imaginer que le roi de France soit contre eux, parce que ce sont des fidèles sujets. Et ce que explique Didier, ils pensent forcément que le roi va revenir sur ses décisions.
Il ne faut pas oublier que le terme de roi soleil pour qualifier Louis XIV a été employé pour la première fois par un pasteur lors du dernier synode national des protestants. Donc la loyauté envers Louis XIV, c'est quelque chose d'extrêmement fort. D'extrêmement fort. Et puis vous avez des pasteurs d'ailleurs qui considèrent que la rupture de loyauté, Élie Merlat sur lequel je travaille publie un livre important en 1685, où il se fait, il n'est pas très bien compris de Huguenot, il dit très clairement, mais Louis XIV est parfaitement dans son droit d'imposer que sa religion soit la religion unique de son royaume. Ou alors, s'il n'est pas dans son droit, il va falloir expliquer aux pays protestants qu'il va falloir désormais autoriser le catholicisme. Donc, il y a un débat de fond. Mais c'est vrai qu'on dirait aujourd'hui, beaucoup de protestants ont intégré le discours tenu par le corps pastoral sous le règne dans les années 1650, comme quoi le roi de France était le protecteur de leur liberté obtenue dans le cadre de l'édit de Nantes. Et ça, il y a Luc Dérault qui a fait une remarquable thèse sur la Normandie, etc. Il a 3-4 pages absolument remarquables avec le cas normand, où il y a des pasteurs qui très clairement disent, période de la Fronde, le roi de France est notre seul protecteur. Contre qui ? Contre l'Église catholique, c'est le roi de France qui est notre protecteur. Donc quand le protecteur rompt le contrat, dans l'esprit des protestants, l'édit de Nantes, c'est le contrat entre les protestants et la monarchie. Or, quand le roi de France rompt le contrat à partir de 1660, puis 1679 et enfin 1685, pour bon nombre de protestants français, bon nombre de Huguenots, il y a une totale incompréhension avec le discours, il est mal conseillé, ce sont ses mauvais ministres, ce sont les maîtresses du roi, etc. On trouve des tas d'excuses à Louis XIV, et on le sait, quand on travaille sur les réfugiés à Genève, par exemple, ils quittent la France, Genève c'est pas loin, on se met à Genève. Les Genevois disent, mais ils disent, mais c'est parce qu'on va rentrer bientôt. Hein. Pourquoi aller vers Lausanne, pourquoi aller plus loin, etc. On va, c'est qu'un mauvais moment à passer, on va rentrer bientôt. Hein. C'est vraiment... 3-5 ans après, quand là, elle a vraiment dit, bon, il n'y a pas de doute, il faut s'établir. Quoi, parce que... Et il y a une date, je prends un autre exemple, un certain Portal. Portal, c'est un Poitevin, banquier protestant de Poitiers, dans les années 1680, qui vit très bien de la gestion de quelques biens de l'évêché de Poitiers, d'ailleurs, mais qui, en 1687, décide de partir. Et il le dit.
Peut-être pour le ruiner, l'évêché.
Non, mais en tout cas, ça a financé une partie de son voyage pour partir au refuge. Il le dit très clairement, en 1687, il reste en France, et au bout de 2 ans, il dit, c'est plus possible, je pars, c'est terminé, ça va durer. Donc il emmène ses 2 enfants, il se réfugie dans un tonneau, il part par un bateau, il se retrouve à Londres. Et ce qui est intéressant, c'est que ses enfants s'appellent comment entre 1680, qui naissent entre 1683 et 86. Guillaume et Marie. Ce qui fait qu'en 1688, au moment de la glorieuse révolution d'Angleterre, il demande la naturalisation anglaise et ses enfants s'appellent William and Mary, c'est-à-dire du nom du couple qui prend le trône d'Angleterre, etc. Il était déjà prêt à intégrer le système. Bon. Mais il a mis 2 ans à partir en disant « c'est fini, il faut partir ». Et il s'établit. Pour bon nombre de fugitifs, ce n'était qu'un mauvais moment à passer. Ce n'était qu'un mauvais moment à passer. Alors, il y a tout le débat aussi qui vient, enfin, notamment le débat qui va se greffer dessus, et Élie Merlat en parle, c'est-à-dire, mais vous ne vous rendez pas compte, Louis XIV ne peut pas faire revenir avec la mentalité que vous avez maintenant. Vous êtes devenus des républicains. Comment un roi peut accepter des républicains? Vous êtes réfugiés dans des pays où il y a la République, etc. Vous avez pris les Pays-Bas, vous avez pris de mauvaises habitudes, etc. Et là, il y a une contradiction absolue.
Ce qu'il faut peut-être ajouter, et là où Louis XIV pousse plus loin la répression et l'enfermement des Huguenots, c'est qu'il interdit la sortie du royaume.
C'est ça. Non, oui, c'est ça.
Alors que les autres monarques, effectivement, admettent une seule religion sur leur territoire, dans leur royaume, oui, mais acceptent la migration, oui, finalement, des communautés qui sont considérées comme des communautés dissidentes. Le problème de Louis XIV, c'est qu'il dit « Vous n'avez pas le droit d'être dans mon royaume, mais il ne laisse pas partir ces Huguenots. » S'ils veulent partir, ils sont faits prisonniers, ils sont envoyés en galère pour les hommes, ils sont envoyés dans des tours prisonnières, comme la tour de Constance ou la tour de Cré, ainsi de suite. Et là, évidemment, le système, c'est ce qui a fait dire à Jeanine Garrison, que Louis XIV avait mis en place un véritable totalitarisme.
C'est ça.
Et même si le mot est un peu anachronique, je crois qu'il est parfaitement juste pour Louis XIV.
Non, mais c'est très très juste. Le scandale de la révocation, c'est effectivement l'interdiction de sortir et l'obligation de la conversion. Au XVIe siècle, en Allemagne, quand il y a eu la partition à l'époque de Charles Quint et les différents États ont choisi la religion du prince, on se déplaçait en fonction de sa religion. Il n'y avait pas d'interdiction de sortie. Le scandale de la révocation, c'est l'interdiction de sortir. Et pour ce qui est de la législation, Jeanine Garrison l'a bien montré, mais il y a eu un travail qui avait été fait par Pilate, un Vendéen, au XIXe siècle, qui avait fait un graphique absolument superbe sur la croissance de la législation anti-protestante et qui monte en puissance. Mais pour ce qui est des marins, il est évident que... Il y a un personnage qui est intéressant aussi, c'est Vauban, qui est connu comme Paul Yorsett et comme... qui a un très très beau mémoire où il explique qu'une des catastrophes de la révocation de l'édit de Nantes, c'est d'avoir perdu autant de milliers de marins qui sont désormais sur les navires anglais et néerlandais. C'est Vauban, un des deux mémoires qui était contre la révocation de l'édit de Nantes. Donc c'est bien une réalité. Comme quoi circule bien dans le Conseil du roi parmi les ministres, et Vauban était très 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 bien introduit, l'idée selon laquelle... les milliers de marins protestants qui sont partis, c'est une catastrophe pour la marine royale.
Oui, Luc.
Oui, Luc Ricard. Donc merci de m'avoir fait découvrir ce personnage que je ne connaissais pas. Et j'aimerais vous poser une question, parce que vous avez parlé du moment qui pour vous est le plus important dans la vie d'Elino, en tout cas plus décisif, c'est par rapport à ce qu'il a vécu au château d'If. J'aimerais savoir si c'est possible, est-ce qu'on connaît un petit peu les textes qui l'ont touché ou la circonstance qui ont fait qu'il a eu ce réveil un petit peu spirituel, est-ce qu'on sait un petit peu ce qui l'a amené à ça ou pas?
Dans une lettre qu'il envoie au pasteur Morin, il est évident que c'est la lecture de la Bible en anglais qu'il a pu avoir qui a été essentielle dans son parcours. Il a dit dans une lettre, on m'a fait passer une Bible en anglais et la Bible en anglais qu'il a à sa disposition, qu'il réussit à cacher, etc. Il dit que c'est vraiment la Bible en anglais qui est l'essentiel de sa lecture. Et c'est après la lecture de la Bible en anglais, le plus il connaît par cœur, il a eu une éducation religieuse, les psaumes, etc., qu'il se met à écrire un certain nombre de cantiques. Ce qui reste d'ailleurs de la mémoire de nos dans l'historiographie américaine, c'est un historien américain qui, il y a une trentaine d'années, a travaillé sur les cantiques d'Elino. Et c'est lui qui a donné le terme de mystique des galères en parlant d'Elino. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la fin du livre, on a ajouté les cantiques que nous connaissons qui sont parvenus d'Elino et qui allaient, d'après ce qu'on peut savoir par une autre lettre, ces cantiques posaient problème justement chez les gardiens parce qu'ils étaient diffusés, ils étaient appris, etc. Mais c'est la Bible, il le dit lui-même, c'est la Bible en anglais qui a été sa lecture lui permettant d'engager ce cheminement spirituel. Et il lisait l'anglais, hein, ça c'est absolument évident. Parce que réfugié à Boston, etc., il disait l'anglais. Moi, je suis absolument... Si on l'a envoyé en Jamaïque à partir de New York, c'est parce qu'il était déjà connu en Jamaïque dès les années 80-85. Il circulait déjà dans les colonies anglaises des Antilles il y a 20 ans. Donc, une Bible en anglais, il n'y a pas de souci. Et quand il fait le catéchisme à New York et qu'il est soutenu par la société de diffusion de la Bible de Londres, c'est la même organisation qui envoie des bibles en anglais aux galères, de manière clandestine. Donc il est dans le réseau de cette diffusion de la Bible et de l'éducation par la Bible. Donc ça, en fait, ce n'est qu'une suite. Et quand le roi lui-même d'Angleterre fait parvenir aux Pays-Bas 200-300 livres pour qu'il puisse l'apporter aux galériens, ça veut dire qu'il y a un circuit qui part de Londres, il y a un circuit qui fonctionne, qu'on voit mal, mais qu'on soupçonne. Il y a un circuit d'argent pour l'aide aux galériens, il y a des livres qui circulent, etc. C'est absolument évident. Mais
il y aura un travail à faire.
Il ne parle pas d'autre chose que de la Bible en anglais en ce qui concerne le livre dont il dispose au Château d'If.
Il y aura un travail à faire sur tous ces circuits, d'ailleurs.
Oui. Il y a une collègue irlandaise qui est en train de travailler sur le vocabulaire des récits de voyage des fugitifs. Il faut savoir qu'il y a peut-être entre 150 et 180 000 huguenots à être partis. Nous n'avons connu que 58 récits de fuite. C'est très très peu. Hein. C'est très très peu. Que 58. On en connaît 4 ou 5 pour la côte atlantique uniquement. C'est très très peu. Mais il y a une collègue néerlandaise j'ai un trou de mémoire, qui travaille, qui connaît le livre. On en a discuté dans le cadre d'un séminaire à la faculté de théologie protestante à Paris. Comme quoi elle travaille, elle, en tant que littéraire, elle travaille sur le vocabulaire, sur les textes qui ont été produits, notamment les lettres des Lido. Mais en littéraire, pour savoir le vocabulaire employé, d'où...
Max Chalaï, d'ailleurs, avait édité un certain nombre de récits de voyage. Je ne sais pas si tu te souviens de... Il y a une autre question, je crois.
Un petit point. Gaston Tournier, dans les éditions du Musée du Désert, avait publié dans les années 30 des extraits, hein, déjà, du livre d'Elino. Si on a repris le texte, c'est parce qu'à la lecture du livre de Gaston Tournier, édité à Mialet, on s'est aperçu que le texte n'était pas complet. Deuxièmement, la modernisation du texte dans les années 30 faisait sauter un certain nombre de termes qui étaient importants. La publication, c'est la publication absolument fidèle du texte en français publié aux Pays-Bas en 1701. Hein, ce n'est pas la version modernisée qui a déjà été publiée au Musée du Désert dans les années 30.
Oui, une autre question, dernière question.
Oui, ce sera ma dernière question.
Pour tout le monde d'ailleurs.
Alors, j'ai fait quelques recherches avant de venir ici et j'ai constaté que le protestantisme est une minorité face à l'islam, au christianisme et il devance le judaïsme. D'après les sondages, il représente 4% de la population française, ce qui est aujourd'hui. Pardon ?
À quelle époque ?
En 2010. Parce que j'ai pas trouvé plus récent. Ça correspond à peu près 1,9 million de personnes. Je voudrais savoir, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il y a toujours un exil des protestantismes ? Est-ce qu'ils sont... Est-ce que les protestants... J'ai dit de la merde. Bon, enfin bref.
Est-ce qu'il y a toujours un exil ?
Pardon ?
Est-ce qu'il y a toujours un exil ?
Non, mais alors, ma vraie question, c'est...
C'était la fausse question.
Oui. Non, mais je vous dis ça parce que je parle français depuis 4 ans, je ne suis pas très...
C'est très bien, il n'y a pas de problème.
Voilà. Alors, les protestants aujourd'hui, ils constituent une minorité en France face aux chrétiens. Ma question donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un exil des protestants ? Est-ce qu'ils ne fuient pas la France vers les Antilles ou vers...
Toujours ?
Oui, aujourd'hui.
Non, non, le phénomène est inverse, en fait. Alors, le phénomène est inverse. En fait, c'est le protestantisme en France est attractif pour des populations qui viennent de l'extérieur. Notamment quand vous allez dans les églises de la région parisienne, vous voyez l'importance du protestantisme qui arrive d'Afrique. Vous avez, je pense à Poitiers par exemple, vous avez une communauté non négligeable de protestants coréens. Il faut savoir qu'un Coréen, sur un tiers des Coréens sont protestants. Hein. Bon, autrement dit, quand on regarde, au contraire, il n'y a pas d'exil, mais il y a au contraire des apports. Alors, sur les chiffres, le protestantisme, il est aujourd'hui à l'étiage de ce qu'il était dès la fin du XVIIIe siècle. Hein. Dès la fin du XVIIIe siècle, on a à peu près un socle. Ce qui se passe, en fait, c'est que des populations culturellement protestantes, non pratiquantes, ont pris leur distance par rapport au protestantisme et elles sont en fait remplacées par des populations protestantes qui viennent de l'extérieur. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gain, tout simplement parce que, j'ai envie de dire, ça se vide de l'intérieur et ça se remplit par l'extérieur. Hein ? Moi, je me souviens à Poitiers, par exemple, de la communauté protestante il y a 20 ans, quand elle a vu arriver des Coréens, c'était intéressant à suivre. Bon, 5 ans après, il y avait des Malgaches, ça a été tout aussi intéressant à suivre. Donc il y a une perte de l'intérieur par un phénomène de déchristianisation que connaissent tous les pays occidentaux. Sous Napoléon Ier, au début du XIXe siècle, il y a une phrase que je dis souvent, Napoléon fait faire une enquête à tous ses préfets en 1804 en leur disant « Il faut que vous me donniez l'état de la situation commune par commune sur le plan démographique, économique et religieux. » On a en partie des rapports. On a notamment le préfet des Deux-Sèvres, où il y a un pays protestant important, le sud des Deux-Sèvres, le Poitou protestant, c'est important. Bon, on est sur des communes dans le sud des Deux-Sèvres où il y a 60 à 75% de protestants au sud de Niort. Qu'est-ce que dit ce préfet ? Sur le plan religieux, globalement, il y a beaucoup de protestants dans ce département. Et il évoque l'histoire de l'implantation du protestantisme, il fait le rapport avec La Rochelle, etc. Mais qu'est-ce qu'il dit à la fin ? Il dit, mais la plupart d'entre eux ne le sont que de mémoire. Ça fait deux siècles. Hein. Ne le sont que de mémoire. Ça veut dire qu'au début du 19e, ils se savent protestants. Les paroles l'étaient. La Révolution française, mais il y a une, on a oublié, quand on parle de déchristianisation dans l'historiographie française, Michel Vauvel, on oublie aussi qu'à côté de la déchristianisation du catholicisme, il y a une déchristianisation du protestantisme. Et moi, je pense que quand j'ai travaillé sur l'application de l'édit de tolérance de 1787, non pas à Saint-Jean-du-Gard, je l'ai fait, mais près de La Rochelle, c'est extrêmement intéressant, notamment où on a une déperdition, c'est-à-dire qu'on a des familles qui n'essaient pas de faire réhabiliter leur mariage comme ils ont le droit. Ils partent. On ne sait pas pourquoi ils ne le font pas. Mais les explications de certains, c'est parce qu'ils ont peur d'être mis en fiche, ou plutôt se méfier. Ça, ils n'ont pas tort, parce qu'à chaque fois que les protestants étaient en fiche, les fiches ont été utilisées. Hein. C'est comme les fiches sur toutes les minorités, il faut se méfier. Mais il n'y a pas que cela. J'oublie pas ce préfet. Et je pense à Gibert, le pasteur qui va se réfugier en 1762 dans les colonies anglaises, le dernier départ. Bon. Et qu'est-ce qu'il leur épile, lui ? Il dit « Les protestants ne sont pas courageux, je m'en vais. » Parce qu'il avait fait quelque chose dès 1760 qui était important, c'est-à-dire qu'il avait dit, eh bien, l'assemblée aura lieu, et à l'époque, il y avait ce qu'on appelle des maisons d'oraison en Charente, c'est-à-dire des granges qui étaient utilisées pour le culte, et il avait dit, fini le culte le samedi, fini le culte tôt le dimanche, permettant aux protestants de venir au culte et d'aller à la messe ensuite. C'est-à-dire qu'il va mettre le culte, clandestin, mais que tout le monde connaît parce qu'il y a plusieurs dizaines d'assistants, à la même heure que la messe catholique, pour obliger à faire un choix. Et ce qu'il dit à un moment dans un texte, c'est « Mais n'importe comment, il y en a qui ont quitté les deux églises. » Autrement dit, quand on parle de déchristianisation dans la France catholique, je rappelais la thèse de Michel Vauvel sur la Provence, on oublie aussi que dans la minorité protestante, il y a aussi ceux qui ont refusé de devenir catholiques, ou alors qui l'ont accepté du bout des lèvres. Et puis il y a aussi ceux qui ne veulent pas se soumettre à une église protestante qui se reconstitue. Et moi, ce qui me frappe, et on le voit sur la carte, vous prenez la carte de la Charente, on pourrait faire à peu près, à mon avis, la même chose dans le Tarn ou dans la région de Montauban, on en parlera avec Abanel. Bon. Mais quand vous regardez la carte des élections au XIXe siècle, dans le département de la Charente-Maritime et en Charente, où les votes les plus importants pour le parti radical, c'est-à-dire un parti laïque, pour la sécularisation, etc. Le parti radical, le parti de la séparation des églises et de l'État en 1905, ça correspond, mais pile à la commune près, aux pays protestants. Et là, ça c'est très très clair. Autrement dit, et j'avais fait faire un mémoire de maîtrise sur Jarnac il y a quelques années, et le pasteur se plaint de quoi ? En disant, le culte peut fonctionner, j'ai de l'argent, on ne manque pas d'argent, on peut aider les plus pauvres, mais, et il pense aux grands négociants de cognac protestants, il dit, mais donner de l'argent, ça n'excuse pas de ne pas être présent au culte. Autrement dit, ce que l'on appelle les grands négociants du cognac protestant, etc., on les sait protestants. Alors certains vivent à Paris, etc. Ils donnent de l'argent à l'église. Mais, comme il dit, on ne voit pas les baptêmes, ils ne se marient pas ici, on ne les voit pas. Mais pourtant, c'est leur église, puisqu'on a les noms, etc., etc. Autrement dit, il y a une, depuis la fin du XVIIIe siècle, il y a une déperdition dans les familles, je dirais, de généalogiquement protestantes. Il y a une déperdition. Et aujourd'hui, le protestantisme, ses effectifs se reconstituent par l'apport asiatique, l'apport africain. C'est très net dans les grandes villes. Hein. Il n'y a que La Rochelle qui n'a pas été encore touchée. Non, c'est vrai. En plus, c'est vrai. À La Rochelle, c'est très étonnant.
Je ne sais pas comment c'est ton prénom. En tout cas, cette question des 4%, elle est juste pour conclure, hein, mais cette question des 4%, en fait, elle dépasse largement même la minorité protestante, puisqu'en fait, si on reprend le livre qui évoque ces 4%, c'est le bouquin de Fatt, je pense, tu as lu ces statistiques, il s'agit de ceux qui même se sentent proches du protestantisme.
Oui, hein.
Donc il y a ceux qui sont des églises. Il y a les églises réformées, l'église luthérienne, il y a les églises évangéliques, hein, celles que tu évoquais, Didier, mais qui viennent reconstituer aussi, pour une partie, le glacis réformé. Mais il y a aussi ceux qui se sentent proches du protestantisme et qui ne sont pas du tout protestants. En fait, des gens qui adhèrent à ces valeurs protestantes. Et puis, à l'intérieur du monde réformé, en même, Fatt va très loin, hein, il y a ceux qui sont réformés de culture, de mémoire, de famille, comme tu as très bien dit, et qui ne sont plus du tout pratiquants. Donc, enfin, c'est une question très intéressante qui déborde largement notre thème.
Je peux rajouter un point.
Oui.
Comme on dit dans notre jargon universitaire, j'avais monté un enseignement, une essai libre sur histoire et patrimoine du protestantisme, etc. Et il y a 7-8 ans, une vingtaine de 25 étudiants, et j'avais l'étonnement pour la première fois 7 étudiantes chinoises, puisque les ECLIP sont ouvertes à l'ensemble de l'université. Je peux avoir des matheux, je peux avoir des juristes, c'est ouvert. Et on a un département important à La Rochelle, qui est un département langue étrangère appliquée à l'Asie. Chinois, indonésien et coréen. Et il y avait 7 étudiants chinoises. Et elles m'ont expliqué après, et on a essayé de se comprendre dans un sabir franco-anglais-chinois. Alors le chinois, bon. Elles m'ont expliqué qu'elles étaient chinoises, que 2-3 venaient de Shanghai, 2-3 de Pékin, et que ça les intéressait parce qu'elles étaient protestantes. Mais elles ne comprenaient pas ce que j'expliquais, alors pour des raisons, c'était pas linguistique. Elles me disaient, mais elles étaient sidérées, Luther et Calvin ne connaissent pas. Et progressivement, la deuxième fois, j'ai expliqué, pour eux, le protestantisme est né en Amérique du Nord au 19e siècle, et il est arrivé par ce qu'elle savait, par des missionnaires au moment de la guerre de Corée. Mais le protestantisme, pour elle, elle venait de découvrir que l'origine du protestantisme était en Europe. Pour eux, le protestantisme, méthodisme, etc., c'est un protestantisme de langue anglaise et américain. Autrement dit, c'est une adhésion à un protestantisme en ne connaissant, en n'ayant jamais entendu parler de Luther et de Calvin.
Voilà une belle conclusion pour inviter à redécouvrir l'histoire. Merci Didier. Je vous invite à découvrir ce très bel ouvrage, donc présenté par Didier Poton et Bertrand Van Rumbeck, qu'on recevra aussi tous deux à la librairie à Cholet en octobre. Je vous invite à découvrir les autres ouvrages de Didier Poton, qu'il a dirigé, notamment « Les Huguenots et l'Atlantique ». Ici, c'est un texte absolument fabuleux. Enfin, pour moi, je dis, c'est une épopée. Je suis consterné, admiratif à chaque fois que je le redécouvre. Donc, n'hésitez pas à
consulter, à lire l'histoire des souffrances du sieur Elino. Je vous précise aussi que nous faisons une interruption dans notre cycle de conférences pendant l'été. La prochaine conférence avec Patrick Cabanel, on abordera le voyage des idées, non plus des hommes, non plus des marchandises, comme on en a parlé un peu ce soir, non plus aussi le voyage colonisateur, le voyage d'évangélisation, mais le voyage des idées, comment finalement les Huguenots français ont été des transmetteurs en France des grandes idées pédagogiques héritées des Allemands, de la laïcité et aussi des grandes réformes scolaires et de la République. Donc ça sera en octobre. La prochaine conférence pour la librairie Jean Calvin, c'est à Cholet. Nous recevons Frédéric Ancel, qui est géopoliticien ou géopolitologue, et qui vient nous parler des printemps arabes avec cette question, l'impossible stabilité après les printemps arabes, point d'interrogation. Frédéric Ancel, un très beau sujet, viendra y répondre donc à Cholet, à la librairie Cholet, mais vous pourrez, je vous en parle, c'est pour ça que je vous en parle, vous pourrez la redécouvrir sur le site de la librairie, comme cette conférence aussi d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à vous munir aussi des programmes, à venir encore converser quelques minutes avec notre conférencier si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous un beau retour, je vous remercie de votre présence et je remercie aussi la médiathèque de nous avoir reçus. Merci, je vous propose de remercier encore notre invité.